Aqui din lu Tetute eu reseben donc Mahmoud Alaya che nous vel entretene en compagnie de la laureata del premi Louis Malassi. Torna mai in pauta che ste premi. Alors ce prix représente un désir de Louis Malassi che voulio fa un quicon per reconnaître la parole des paysans.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc le prix Louis Malassi a été décerné le mardi dernier pour Madame Faucon-Pelet, Nicole, pour son livre Le secret de la rabassière. Cette année, c'est la deuxième édition du prix littéraire Louis Malassi.
Oui.
L'année dernière, on l'avait décerné à un autre paysan de la Gascogne, c'est Jean-Louis Kériac, pour son livre « Les trois sillons de terre rouge ». Voilà. Alors, donc, on a la chance d'avoir Nicole Faucon-Pelet qui va pouvoir un peu nous parler de ce livre qui a été le lauréat, qui a été choisi par un jury spécialisé là-dedans. Mais peut-être qu'on va dire quelques mots pour présenter Nicole. Hein, pour que,
des premiers, sérieux, pas mal.
Voilà.
Ça serait pas mal, ouais.
Voilà. Alors, Nicole, c'est une paysanne. D'abord, elle est née dans une ferme paysanne de la Drôme provençale. Le jour de la Saint-Antoine. Alors ça tombe bien, parce que Saint-Antoine, c'est le patron des trificulteurs, les producteurs de truffes.
D'accord, dingo.
Voilà. Alors, et c'est le 17 janvier, le jour de la Saint-Antoine. Alors, le grand-père de Nicole, à la Saint-Antoine, il allait acheter un petit cochon à la foire et pour l'engraisser toute l'année. Et puis après, on va le sacrifier l'hiver suivant. Ça, c'était la tradition. Alors, Nicole a été à l'école et au lycée à Montélimar. Et après, elle est revenue à la ferme de Chanlon, à la ferme de ses parents, pour devenir bergère. Elle a été bergère. Elle avait 300 brebis et 10 chèvres.
Juste à garde.
Voilà, pour garder.
Elle devait garder 300 moutons.
300 brebis et 10 chèvres, oui. Et alors, en gardant les brebis, elle lisait. Et elle écrivait en plus. Et comme ça, eh bien, ces moutons et ces brebis se retrouvaient dans la luzerne des voisins. Et donc, tu imagines les problèmes. Voilà. Donc, ça, c'est fréquent. Voilà. Alors, après, bon, elle a épousé un boulanger, boulanger de Saint-Rémez. Saint-Rémez, c'est dans l'Ardèche.
D'une Ardèche, voilà, d'une Sud-Ardèche.
Voilà. Hein. Donc, elle a changé de la Drôme, elle est devenue ardéchoise. Elle a suivi son mari. Et puis, elle est devenue correspondante de presse de la Tribune de Montélimar. Pendant plusieurs années, elle a été correspondante, donc elle donnait les nouvelles à la Tribune de Montélimar. Et puis, bon, avec son amour pour la nature et tout ça, elle a créé une association, les Boulin-Gin-Gin, je ne sais pas comment ça se dit.
Boulin-Gin-Gin.
Voilà. Qu'est-ce que c'est, le Boulin-Gin-Gin?
Alors, c'est une petite plante qui pousse sur les murailles un peu partout, il doit très certainement y en avoir à Montpellier, qui s'appelle le sédum acre.
D'accord.
Boulin-Gin-Gin.
Boulin-Gin-Gin.
Alors, cette association, elle avait pour but de promener les gens dans la garrigue pour leur montrer un peu les plantes, la botanique, découvrir un peu la nature, la toponymie, etc. Voilà. Et donc, elle a animé cette association pendant quelques années. Et puis, c'est en 85 qu'elle a publié son premier recueil, Terre d'Ardèche, Terre de Passion, aux éditions Regards du Monde. Et elle s'exprime dans ce livre spontanément, ce qui lui vaut beaucoup de succès auprès de ses lecteurs, mais aussi quelques animosités parce que les villageois se reconnaissaient un peu dans ses écrits, quoi. Il y en a qui étaient contents, il y en a qui n'étaient pas contents.
C'est clair que quand c'est des écrits ou des mondes, monde, c'est pas d'un coup d'œil, ça, après.
C'est romancé, mais les gens se retrouvaient un peu dans ces personnages, quoi. Alors, c'était pas eux, mais ça ressemblait. Alors, il y en a qui n'étaient pas contents, quoi.
Oh, mais là, tu m'as fait pas gentil.
Voilà, voilà. Alors, elle a écrit d'autres livres. Hein. En 1988, elle a publié un ouvrage lithographié. C'est tiré sur, sur ce qu'on appelle la fameuse bête à cornes. Là. C'est sur le Aubena Bas Vivarais. Hein. Il était réalisé avec un peintre, le Jean-Pierre Le Breton. Mmh. Voilà cet ouvrage. Et la tuade des cochons, ça a toujours marqué. Alors, donc, elle a aussi un livre en 90, elle a publié sur la tuade des cochons.
D'accord. Hein.
Elle célèbre un peu le souvenir du temps où, on tuait le cochon. Ça existe encore, cette tradition.
Voilà.
Et après, elle a publié un autre ouvrage sur Ardèche, soleil d'orage. C'est un recueil de nouvelles, si tu veux, qui sont un peu courtes, parce que c'est des nouvelles, ça se termine un peu brièvement et un peu brutalement. Donc, elle a été conduite petit à petit à passer au roman, où elle a un peu plus de temps pour écrire, etc. Et donc, elle a fait d'abord, avec son mari, un ouvrage sur la dernière charbonnière de l'Ardèche. En 97. C'est les charbonnières, c'est toute une histoire
D'accord, ouais, ouais.
Et c'est comme ça que, petit à petit, donc, elle a pris connaissance de l'association des écrivains et artistes paysans. Elle a adhéré à cette association et elle participe activement aux rencontres de ces paysans, un peu de la France entière, les paysans qui écrivent. Hein, c'est quelque chose d'original parce que les paysans, c'est surtout le travail de la terre et puis la transmission orale, etc. Mais là, il y en a quelques-uns qui se sont lancés depuis une bonne trentaine d'années et qui ont écrit des perles, des romans fantastiques pour témoigner un peu de la vie des paysans, etc. Et donc, c'est comme ça qu'elle est venue à l'écriture et elle a écrit ce roman qui a eu le prix
Louis Malassis
cette année, Le secret de la rabassière. Voilà. Et donc elle va peut-être nous en parler, mais après une petite pause.
On va s'écouter, se faire une petite pause musicale.
Je referai tous les chemins de la terre, j'irai voir le soleil d'Afrique, les fleurs de Tahiti, les cow-boys d'Amérique, mais je t'emmènerai, toi mon petit, je n'ai besoin que de cahiers et de livres, d'un peu de pain, d'un peu de chaleur, et s'il me faut de l'amour pour vivre, j'en trouverai dans ton Je referai tous les chemins de la terre, j'irai voir le soleil d'Afrique, les fleurs de Tahiti, les cow-boys d'Amérique, mais je t'emmènerai, toi mon petit, viens je t'apprendrai l'amour du monde, et nous partagerons la vie de tous les gens qui avec nous voudront faire une ronde pour retrouver L'amour d'antan, je referai tous les chemins de la terre. J'irai voir le soleil d'Afrique, les fleurs de Tahiti, les cow-boys d'Amérique. Mais je t'emmènerai, toi mon petit, je vous emmènerai tous mes petits.
Baki, un presencio. De la laureata del premio Louis Malassi, l'autore qui de la rabassière, le secret de la rabassière. Alors des premiers, de qu'est-ce une rabassière?
Alors, la rabasse en provençal, en occitan, c'est la truffe. La rabassière, c'est donc celle qui va ramasser les truffes avec son chien aujourd'hui, avec son cochon autrefois.
À Messon
Caillou. Ah, mais sous caillou, oui.
Ah, t'es à cause de strand.
Autrefois, les trufficulteurs allaient ramasser les truffes en hiver avec leurs cochons. Mmh. Et ce cochon était sacrifié à la fin de la saison des truffes, au mois de février-mars. On achetait notre petit cochon qu'on élevait pour la future saison.
Bon, maintenant, cada an, une nouvelle.
C'est ça. Alors, comme aujourd'hui, les chiens truffiers dorment à la ferme, il vaut mieux travailler avec un chien plutôt qu'avec un cochon. C'est plus facile à mettre sur le canapé.
D'accord. Et sais-tu, Tabé, se sacrifique le gousse truffier non. C'est, et on ne le tue pas, on ne le sacrifie pas, le chien truffier.
Ah non, surtout pas. Non, le chien truffier est un animal très précieux.
D'accord.
Il y a d'ailleurs pas mal de vols de truffes et de vols de chiens en Tricastin, en Drôme, en Ardèche, en Vaucluse. Et ils sont très, très surveillés.
Ah, alors, Mahmoud nous a parlé un peu de votre parcours, on va dire. Quel a été le déclic pour venir à l'écriture ?
Je ne peux pas répondre à la question. J'ai toujours voulu écrire. Donc voilà, j'écris depuis que je suis toute jeune. Et j'en ai besoin.
Un maître d'école, une maîtresse d'école qui vous aurait fait découvrir ça ou même pas spécialement ?
Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est écrit dans mes gènes, sûrement.
D'accord. Et donc, votre premier, un de vos premiers ouvrages qui parle de la tuade du porc.
Oui.
Et c'est traite d'aquel porc qui va faire la récolte des ravasses.
Même pas.
Ah.
Même pas. C'est plutôt un petit bouquin ethnographique.
Ouais.
Qui était censé transmettre un fait de société en voie de disparition, parce qu'on ne tue pratiquement plus de porcs. Mmh. Actuellement, les paysans vont l'acheter mort et en ramènent un quart ou un demi à la maison qu'ils charcutent eux-mêmes. Mais très peu de gens élèvent encore leurs cochons.
Ah, et à quoi vous pensez que c'est dû, ça, à une évolution de la société vers plus de sécurité,
peut-être, oui, un peu plus de confort, je dirais, parce que élever un cochon, c'est difficile, c'est contraignant, il faut lui donner à manger tous les jours, et puis surtout il faut le tuer. Et il n'y a quasiment plus de seigneur de cochon, comme on disait autrefois.
Seigneur SAI, en fait.
SAI, oui, oui. Qui faisait le tour des campagnes et qui tuait le cochon.
Alors, la langue. D'indrumo provençal, la langue provençale l'avez custodiata, l'avez ausida quand de pichoun.
L'ai entendu.
Oh.
Je laisse trabège, hein. Je vous préviens. Mon père parlait beaucoup patouès avec son père, avec ses frères, mais quand il me parlait à moi, il me parlait à français.
Ah.
Donc je dois avoir dans une petite partie de la tête cette langue qui s'est conservée parce que je la comprends.
Mm-hmm.
Mais il faudrait que je prenne quelques cours pour me perfectionner.
Pour se remettre, dans le bain. Et dans vos romans, dans vos écrits, vous racontez la terre, vous racontez la dureté de la vie quotidienne.
Bien sûr. Puisque Le secret de la rabassière raconte donc l'itinéraire d'une jeune femme qui s'appelle Mina, qui vient de l'Atlas marocain, qui épouse un paysan drômois, et dont le beau-père, le vieux Jules, lui apprend tout le monde de la truffe, c'est-à-dire le dressage du chien, la cueillette, la plantation des truffiers, la taille des truffiers, comment on va vendre son produit au marché auprès des courtiers, comment c'est un métier difficile parce que l'hiver il fait très froid, donc il faut affronter les rafales du Mistral. Il faut également savoir maîtriser son chien, l'encourager, parce qu'un chien de truffe se fatigue très très vite. Ce qui explique qu'autrefois, au bout de 2-3 heures, l'animal est fatigué. Donc on doit changer et éventuellement avoir plusieurs chiens. C'est très très fatigant pour un chien de trouver des truffes.
Ah oh, très. Enfin, semble pas tant à la sang qu'à quoi. Mais bon, C'est au 17, hein.
C'est ce qui m'a été dit, et oui, effectivement, oui, oui. Bon, il doit marquer la truffe, il doit quand même se plier aux ordres du maître. Mm-hmm. C'est difficile, paraît-il, pour lui.
D'accord. Donc le secret de la rabassière, est-ce le percours d'une offenne qui vient d'une drôme. Alors, est-ce qu'il y a encore dans la Drôme aujourd'hui, il y a des exploitations de rabassières, d'exploitations truffières?
Ah oui, beaucoup, beaucoup. Les gens sont en train de planter beaucoup de truffiers. Au début du siècle, et notamment avant la guerre de 14, entre les deux guerres encore, il y avait beaucoup de truffières sauvages. Les bois étaient très entretenus, il y avait beaucoup plus de troupeaux, donc les milieux étaient ouverts. Et la truffe se développait de manière quasiment sauvage. Or, depuis un certain temps, il n'y a plus que les chasseurs qui pratiquent les bois et les randonneurs. Et les milieux se sont refermés, ce qui fait qu'actuellement, les trufficulteurs plantent des truffiers, ce qui n'existait pas il y a quelques années. Donc, il y a eu une grosse vogue de plantation parce que la demande est très forte et les récoltes ne suivent pas. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui plantent.
Et il y a des marchés à la truffe, alors, de ce côté-là aussi?
Le célèbre marché à la truffe, c'est évidemment le premier marché de France, c'est le marché de Richerenche, dans l'enclave des Papes, qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. C'est un petit marché, le marché à la rabasse, tous les samedis matins, qui attire beaucoup de monde.
Et alors, la rabasse se récolte plutôt à quel moment de l'année?
Alors là, il y a plusieurs rabasses. Moi, la rabasse dont je parle, c'est la truffe noire d'hiver, qu'on nomme le diamant noir, qui s'appelle la mélanosporum. Elle pousse en hiver, donc du mois de novembre jusqu'au mois de mars. On dit que quand l'amandier fleurit, la truffe disparaît.
Ah, oh, donc oui. Fins al mes de mars.
Oui.
Quand même, que les amandiers, ils sont en fleur avant, quand même, d'habitude. Bon, d'accord.
Bon, voilà, c'est ce que dit la légende. C'est ce que dit la légende.
D'accord. Et sinon, il y a d'autres rabasses, alors?
Alors, il y a énormément de truffes. Chez nous, on a la truffe d'été, qui s'appelle la tuber estivum, qui est une truffe blanche. Comme il fait très chaud, en général, les trufficulteurs emmènent leurs chiens plutôt le matin et le soir.
Oui.
Et cette truffe blanche, qu'on appelle également la truffe de la Saint-Jean, puisqu'elle pousse en juin, juillet, août, septembre, précède la truffe noire. Actuellement, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins d'écart entre la saison d'hiver et la saison d'été. Mais la tuber estivum a nettement moins de succès que la truffe noire d'hiver.
Ah, parce que la couleur associée à la truffe, c'est le noir quand même.
Le noir fait son parfum. Bon, la truffe noire d'hiver a un parfum extraordinaire, en particulier au mois de janvier-février. C'est là qu'il faut la déguster, c'est là qu'elle est la meilleure.
D'accord. Et la truffe d'été, alors, elle a moins de goût?
Alors, la truffe d'été a du goût et mériterait d'être réhabilitée. Je pense que c'est ce qui risque de se faire dans les années à venir, parce qu'elle a son parfum et elle a son caractère agréable aussi.
D'accord. D'accord. Eh ben oui, Mahmoud.
Je voulais rajouter qu'elle a Madame Faucon-Pelet a été intronisée chevalier de la confrérie du diamant noir et de la gastronomie en 2004. Et elle produit elle-même, bon, dans une petite ferme de 2 hectares, quelques truffes. Elle a déjà produit ses premières truffes. Et donc, elle fait partie un peu des producteurs, des petits producteurs de la région. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que son roman, que j'ai lu, moi, avec beaucoup, beaucoup de plaisir, eh bien, il retrace un peu, on sent... la vie, le mode de vie des paysans et avec ses valeurs. Hein, parce que les paysans d'aujourd'hui, disons, se modernisent, mais ils gardent en eux, disons, des liens avec leurs racines et avec beaucoup de valeurs du type, disons, de l'attachement au pays, la solidarité, les liens avec la famille, la tolérance. On retrouve tout ça dans son roman en lisant, disons, les différentes scènes. C'est romancé, mais c'est très riche avec ses sentiments, disons, un coup de chapeau aux valeurs paysannes, si vous voulez.
D'accord. Eh bien, merci bien, madame, d'être venue nous entretenir un peu de vos activités. Et encore bravo.
Oui. Est-ce que je peux ajouter que Le secret de la rabassière a une suite qui s'appelle La rabassière au pays des bergers, qui raconte la suite des aventures de Mina depuis ses truffières du Tricastin jusqu'au nord du Maroc, où pousse la terfesse, qui est une truffe des sables, et qui se termine en pays Touareg, au nord du Niger, à côté d'Agadez. Et si je peux encore ajouter un petit quelque chose...
Mais je vous en prie.
Je dirais que je viens de publier Le fournil de César, qui est mon dernier ouvrage, qui là est un roman qui rend hommage au métier du boulanger, parce que je trouve qu'on connaît très très mal ce métier, alors que paradoxalement, on mange du pain tous les jours.
Bertates.
Merci.
Boupa, cadeau de jour. Grand merci à vous.
Merci à vous.
Adicias.
Adicias.
Seyim pais, eyu aflu,
eyu aflu, eyu aflu.
Que la pera, la de l'amour,
la de l'amour, la de l'amour. Au pero, van caminar, van caminar, caparim mordero, au pero. Van caminar, van caminar, los países van cerca.
Tu Teyeu d'Hélène Rix, 95.4 des radios Lengadoc, Montpellier 7 à l'Est.